Notre invité de cette deuxième heure pour le 1202e Sweet Home Chicago, c'est Tony Marlowe, un grand voyage entre rockabilly et rock blues psychédélique qui vous attend. Avec cette interview fleuve de Tony Marlowe, 69 ans au compteur, pionnier du rockabilly revival français qui n'en finit pas de porter à bout de bras de nombreux projets musicaux aussi excitants qu'originaux. Nous évoquerons ses débuts de batteur et de guitariste, ses influences, les Rocking Rebels, Scotty Moore, Elvis Presley, les Chaussettes Noires, mais aussi son tout nouveau bébé, millésime 2023, qui s'appelle Cryptogenèse, le deuxième album de son trio Marlowe Rider, dont nous écouterons la moitié, soit 6 titres. Cette interview est dédiée à la mémoire de Fred Kolinsky, le batteur de Marlowe Rider, disparu le 16 mai 2023. Tony Marlowe, bonjour.
Bonjour Marc.
Comment ça va depuis la dernière fois, Tony ?
Eh bien écoute, très bien, tu vois, alors on se maintient bien, pour l'instant ça va.
Eh bien, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était il y a à peu près un an, et tu avais fait partie de l'émission pour la fameuse rubrique My Rockers, où tu nous avais partagé ton amour pour le groupe Cactus, un groupe que je connaissais vaguement, hein, franchement, pour tout l'avouer, et que tu nous as fait découvrir dans l'émission. Et puis également Alicia Ferrucci, ta compagne, qui nous a fait partager un morceau de Aerosmith dans cette même rubrique. Et puis on avait parlé il y a déjà 2 ans maintenant... du premier album de Marlowe Rider, on va parler aujourd'hui du second, hein, qui est paru il y a déjà quelques semaines de ça. Mais auparavant, peut-être, Tony, évoquer les débuts de ta carrière, parce que, comme on disait la dernière fois, tu n'es pas tout à fait un lapin de 3 semaines, tu n'as pas démarré en 2006, hein, tu as démarré au siècle dernier, on peut dire ça, hein, Tony.
Oui, au siècle dernier, tout à fait. au tout début des années 70, en fait, au lycée déjà, où justement, à l'époque, j'ai démarré comme batteur, donc j'étais au lycée de Bastia en Corse, et il y avait une batterie qui traînait au foyer de l'internat, et c'est comme ça que m'est venu le virus. Et donc très vite on a fait des groupes de lycée où on reprenait les titres de l'époque, on essayait de les jouer, en tout cas de Jimi Hendrix, Cactus justement, ou Deep Purple, les Rolling Stones, Johnny Winter, etc. quoi.
Et tout ça, c'était avant l'apparition des Stray Cats. On va signaler ça pour les gens qui ont moins de 40 ans, parce que pour eux, le rockabilly, c'est les Stray Cats. Et puis, fait, le rockabilly de l'époque, c'est celui des années 50, celui que vous aimiez, c'était plutôt Elvis, Presley et consorts, non ?
C'est ça. Et donc, après, je découvre à cette époque-là également Elvis, justement, au début des années 70, grâce au comeback qu'il avait fait à l'époque. Mais je découvre vraiment, après, en 74, donc je monte à Paris pour essayer de faire de la musique professionnellement, et c'est à Paris que je découvre vraiment le rockabilly grâce à des disquaires qui me font découvrir un peu les artistes de Geffen Records, que là je découvre vraiment le rockabilly, et bon, j'ai un coup de cœur également donc pour cette musique, et je monte les Rockin' Rebels, donc qui a été un des premiers groupes, là on arrive en 77-18,
voilà,
un des premiers groupes donc qui a joué du rockabilly en France à l'époque. Et à l'époque, je suis encore batteur. De batteur, je vais passer chanteur 2-3 ans après, et petit à petit me mettre à la guitare.
Comment ça se fait, Tony, que, on va dire, plus de 40 ans après, on se souvient encore des Rockin' Rebels ? Qu'est-ce que ce groupe avait de particulier, selon toi ? On a dû t'en parler quand même encore maintenant, j'imagine.
Tout à fait. Je pense que le groupe a un peu marqué son époque quand parce que, voilà, bon, il y a eu, donc, on a été parmi les premiers à jouer cette musique, et donc on a eu la chance également de faire la première partie des Stray Cats en 81, donc toute la tournée française. On a sorti 3 albums, 7 45 tours, dont un après produit par Aldo Martinez, donc qui s'appelait Branche le Poste, et qui a fait quand même un petit tube, on va dire, radiophonique.
Branche le Poste, musique stéréo. Branche le Poste, chez toi au boulot. Branche le Poste, c'est plus rigolo. Branche le Poste, poste, poste. Branche le Poste, branche le Poste, branche le Poste. Le jour et la nuit, branche le poste, et bonjour la vie, branche le poste, 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 branche le poste, branche le poste.
Tu t'es fait virer de chez toi du lycée, quand après mon rapport, arrête de flipper, va tout t'expliquer, et réponds-leur en rock'n'roll.
Branche le poste, oublie tes soucis, branche le poste, remède garantie, branche le poste, et c'est reparti, branche le poste, 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 branche le poste, branche le poste.
Des télés, on avait fait Chorus avec Antoine de Caunes, donc on était pas mal médiatisés, donc c'est vrai qu'on a un peu marqué l'époque, quoi, bon, avec d'autres groupes également, mais c'est marrant que des années plus tard, des gens même comme Didier Vampas ou Ty Luke de La Souris Déglinguée, même me parle des disques des Rockin' Rebels qu'ils écoutaient à l'époque, et ils connaissaient même les paroles mieux que moi, quelques décennies plus tard. Donc effectivement, le groupe a quand même a laissé sa marque, on va dire, sur cette époque. Quoi.
Et oui, et donc avec une existence qui a frôlé les 5-6 ans, je crois. Enfin, en tout cas, il y a eu des choses jusque vers 82, discographiquement parlant, pour les Rocking Rebels, je crois, à peu près.
Oui, même jusqu'à 85.
Jusqu'en 85, voilà, d'accord.
En gros, ça va de 77 à 85.
Pour les curieux, pour les gens qui ne peuvent plus se procurer les vinyles en dehors d'un coup de bol au plus, il y a eu une intégrale, enfin l'intégrale en français des Rocking Rebels, il y a déjà une petite vingtaine d'années, réédition en CD. Est-ce que ça aussi c'est difficile à trouver maintenant ou ça va ?
Maintenant c'est difficile à trouver, par contre ce qu'on peut trouver c'est un double CD, une anthologie, donc ça s'appelle Tony Marlowe, 40 ans de rock'n'roll.
Ah oui, voilà.
Et là, voilà. Alors là, ça part début des Rockin' Rebels, y compris avec des titres assez rares maintenant, et ça va jusqu'à aujourd'hui. Donc ça traverse un peu, justement, c'est une rétrospective avec donc les Rockin' Rebels, puis les groupes que j'ai formés également après, comme Betty and the Bops, comme des groupes plus, justement, Jump Blues, comme les Bandits Manchots, ou Tony Marlowe et les Privés. Donc ça retrace tout jusque après Captain Kidd, qui était un groupe hommage à Johnny Kidd, célèbre rocker anglais. Donc voilà. Alors par contre, ce disque-là se trouve toujours. On peut le commander même sur les sites de la Fnac ou directement à moi sur le Big Cartel. Enfin bon, ça se trouve. Il y en a encore. Voilà.
Voilà. Je sais qu'il y a des gens qui sont toujours à l'affût de ce genre de choses. Tony, je voulais te parler rapidement, toujours pour évoquer ta carrière. On a évoqué en filigrane les Stray Cats, dont tu as fait la première partie en 1981, au moment de le début de leur ascension, mais tu as également fait la première partie de Carl Perkins. Est-ce qu'il y a d'autres artistes comme ça dont tu gardes un souvenir précieux parce que tu as ouvert pour eux, tu as pu les côtoyer, leur parler, qui sont tes héros et avec qui tu as eu la chance de jouer ou partager une première partie, Tony?
Alors, pour les premières parties, donc en 82, j'ai également fait la première partie de Ming DeVille.
Yes.
Et donc ça c'est bon, j'ai adoré. En plus lui habitait à Paris à l'époque et venait même nous voir enregistrer en studio à l'époque donc du premier album des Rockin' Rebels. Donc on a eu la chance de faire sa première partie, Ming DeVille. Donc il y a eu, comme tu m'as dit, là quelques années plus tard, Carl Perkins. Et également dans les grands guitaristes, j'ai joué plusieurs fois avec Scotty Moore, donc le guitariste d'Elvis,
voilà.
Et également avec James Burton, qui était aussi entre autres une légende de la guitare rockabilly country, qui a joué avec Ricky Nelson, avec Elvis et des tas d'autres, Emmylou Harris, enfin bon, voilà. Donc j'ai eu aussi la chance de les côtoyer, Scotty Moore, James Burton, des souvenirs merveilleux qui m'ont beaucoup aussi influencé par rapport au jeu de guitare.
Et puis peut-être aussi du côté anecdote, parce que partager la scène et puis côtoyer un garçon comme Scotty Moore, j'imagine qu'il a dû te donner quelques anecdotes à propos d'Elvis Presley, non ?
Oui, après, c'est vrai qu'il nous a surtout, il m'a surtout effectivement plus parlé de guitare. Bon, les anecdotes avec Elvis, on les connaissait déjà, parce qu'il les a dit déjà, en fait, pas mal dans un livre de souvenirs, puis... mais c'est surtout, en fait, le personnage qui était fascinant, quoi.
Ouais.
C'est cette modestie, en même temps, ça c'est comme pour Carl Perkins, ils étaient d'une humilité, d'une modestie incroyable. Ouais. Alors, ils ont inventé le rock'n'roll à la guitare et malgré ça, ils sont vraiment... c'est surprenant, quoi. Chez beaucoup d'artistes américains, j'ai remarqué ça d'ailleurs, cette sorte de vraiment d'humilité, puis aussi le côté très, très humain, très partageur et accessible. Well, I'm leaving town, baby. I'm leaving town for sure. Well, then you won't be rolling up with me, hanging around your door, but that's all right. Oh, that's all right. That's all right now, mama. It is way to take it on. Thank you.
La générosité et puis le détachement parfois aussi. Et c'est vrai qu'on se demande si ces pionniers-là se rendaient compte du temps que ça allait perdurer. Le rock'n'roll, on en parle toujours, on le joue toujours, 70 ans après. Est-ce que tu penses qu'ils pensaient que ça allait perdurer autant de temps ou est-ce que c'était juste une mode et on allait passer à autre chose dans 6 mois?
Ah ben eux justement, oui, ils ne se rendaient pas du tout compte à l'époque. Ça par contre, il me l'a dit, Scotty notamment, il ne se rendait pas du tout compte de ce qu'il était en train de faire. Il jouait, comme il disait, du mieux qu'il pouvait. Et puis voilà, et il a même été surpris des décennies plus tard quand des gens venaient presque les larmes aux yeux le remercier pour ce qu'il avait fait et tout. Il disait mais j'ai rien fait de spécial, j'ai juste joué ce que je pensais être bien à l'époque, c'est tout quoi. Et donc en effet il pouvait pas imaginer ce que ça allait devenir.
Je reviens plus précisément, Tony, avec toi en 1984 avec ce 45 tours Branche le poste que tu citais tout à l'heure qui avait été produit par Aldo Martinez, tu l'as dit, un ancien musicien des Chaussettes Noires. Est-ce que l'expérience des Chaussettes Noires avait servi pour la création de ce morceau en particulier ou pas du tout?
Oui, parce que Aldo, qui était le bassiste, était en fait dans les Chaussettes Noires, c'était un peu lui le responsable des chœurs, parce qu'il y avait beaucoup de chœurs dans les disques des Chaussettes Noires. Lui adorait les chœurs. Et il nous avait dit ce serait bien qu'on fasse un titre avec des voix. Donc c'était un peu son influence, justement, ce côté très vocal, très, très swingant. Et donc en plus, il avait quand même, avec les années, acquis c'était un très bon producteur, quoi. Il savait ensuite personner les choses. Et en plus, il était très pote depuis l'époque avec Blanc Francard, qui était un des meilleurs ingé-sons en France à l'époque. Et donc, il a fait mixer par Blanc Francard le disque. Donc oui, Aldo nous a beaucoup apporté.
À propos de toi et de ta carrière, on connaît Claude Moine, tout de suite on pense à Eddie Mitchell. Jean-Philippe Smet, tout de suite on pense à Johnny Hallyday. On pourra en citer 10, 20, 30. Pourquoi est-ce que quand on pense à Tony Marlowe, on ne pense pas à Gérard Toubeau?
Je pense que qu'il faudrait un petit peu plus de notoriété, peut-être.
Ouais, derrière ça, la question, c'est pourquoi est-ce que tu as choisi un nom de scène? Parce que Gérard Toubeau, ça sonne super bien.
Écoute, oui, c'est ce que... aujourd'hui, ce serait à refaire. Je garderais Gérard Toubeau.
Ouais.
Mais à l'époque, bon, c'était un peu une sorte de... malgré tout, voilà, on prenait un pseudo. Donc, j'aimais bien celui-là, d'autant plus que Marlowe, c'était un peu pour moi un héros de polar. Et j'aimais bien un petit peu la philosophie de Philippe Marlowe, du coup, le détective privé. Et c'est un peu pour ça que j'ai pris ce pseudo, mais en effet, ce serait à refaire aujourd'hui, je ne prendrais pas de pseudo, quoi. Je garderais Gérard Toubeau. Voilà.
Et puis à propos de tes origines, pour terminer, c'est vrai que tu es né à Charleroi et on est en Belgique là, et tu t'es ensuite expatrié en Corse. D'ailleurs, tu es toujours en vacances en Corse là actuellement, je crois, hein, Tony.
Oui, voilà, dans la maison familiale, mais en fait, je suis, comme je dis, j'aime à dire en plaisantant, belgo-corse, c'est-à-dire belge par effectivement mes origines. Je suis né en Belgique à Charleroi, mais j'ai grandi en Corse et c'est vrai que j'ai pris beaucoup de la mentalité corse aussi. De mes amis d'enfance sont corses et voilà, donc j'y retourne évidemment tous les ans pour me ressourcer et voilà, donc j'aime à dire en plaisantant, je me présente comme belgo-corse. Une espèce rare.
Oui, d'autant plus que des belgo-corses qui habitent Montreuil, ils doivent y avoir encore moins.
Exactement.
Et puis donc on en arrive en 2021 avec la sortie de First Ride, donc cet album signé Marlowe Rider, du nom de ton patronyme, et Marlowe Rider c'est le nom du groupe, avec Amine Leroy à la contrebasse et Fred Kolinsky à la batterie. Puis deux ans après sort au printemps dernier cet album Cryptogenèse dont on va parler maintenant. Tout d'abord je pense qu'on pourrait peut-être dédicacer cette interview à Fred Kolinsky, qu'est-ce que tu en penses?
Bien sûr, oui. Tout à fait, mais oui, parce que malheureusement notre bon Fred nous a quitté le 16 mai de cette année. Voilà, c'était un très très bon batteur, un ami depuis très longtemps. Et bon, voilà, il a fait un AVC au mois de novembre 2022. Et bon, il a tenu malgré tout à jouer, à continuer le plus possible à faire de la scène. Malgré ça, bon, et donc jusqu'au moment où il a plus pu, et malheureusement il est parti 15 jours après. Donc bien sûr, on lui dédicace cette interview et le dernier album, bien sûr, Cryptogenèse, donc à Fred Kolinsky.
Et l'album Cryptogenèse, dont le nom est un petit peu intriguant, qui va bien avec la pochette, le look de la pochette, très très flashy, très années 60. Quel est artistiquement parlant, la genèse de Cryptogenèse, dis-moi.
On en a parlé au début de l'interview, c'est-à-dire que c'est un peu un retour à mes années d'adolescence à Bastia, donc du coup avant la période rockabilly, où donc jeune batteur, on jouait des reprises de Jimi Hendrix, des Rolling Stones, de Johnny Winter, Rory Gallagher, enfin bon, un petit peu tous les géants du rock blues rock de l'époque, enfin du moins on essayait de les jouer parce qu'on était des débutants. Et je me suis dit 40 ans après que, en ayant acquis au fil des ans quand même une maîtrise un peu de l'instrument, du chant, etc., ça m'est revenu un peu avec l'âge, on va dire, comme vraiment une sorte de besoin viscéral presque de renouer avec ça. Donc c'est ce qui explique la genèse justement de ce concept Marlow Rider. Et avec Cryptogenèse, c'est en même temps toute la face en français, c'est un peu l'évocation de mes jeunes années, des années, je dirais vraiment de préadolescence, adolescence, les premiers groupes, la montée à Paris, en fait, ça évoque tout ça, c'est une sorte de genèse. Pourquoi crypto? Parce que c'est un peu crypté, c'est-à-dire que il faut se pencher un peu sur les textes des fois pour ça raconte les choses de manière un peu des fois
en filigrane, un peu, ouais.
En filigrane, voilà. Ouais. Donc pour donner en même temps une sorte un peu de mystère à la, que ce soit pas trop non plus laisser planer un peu le mystère, voilà. On va dire sur certaines chansons.
Et sur certaines chansons, parce que j'allais dire, il y en a d'autres. Par contre, c'est très très clair. Si je peux le citer sur les deux premiers couplets de Comme un cran d'arrêt, ça donne un morceau signé de toi et de Alicia Fiorucci, hein, rendons à Alicia ce qui n'appartient pas qu'à Tony.
Tout à fait.
Des sentiments comme des gouttes de sang coulent sur l'acier luisant, il t'explose en pleine face, bientôt la mort tu enlaces, l'amour est comme un cran d'arrêt et ce n'est pas une paisible sérénade, l'amour est comme un cran d'arrêt et ce n'est pas une tranquille promenade. C'est très très clair ça, mais chacun peut voir midi à sa porte. On a tous le vécu de ce genre de situation, de ce que tu racontes dans ce morceau.
Tout à fait, en fait, on essaye aussi, à travers des choses personnelles, de toucher un peu, entre guillemets, à l'universel. C'est-à-dire que ça peut aussi, beaucoup de gens peuvent se retrouver dans certains textes parce qu'ils ont eux-mêmes vécu ça. Donc, c'est pour ça que je disais qu'il y a des fois, c'est justement, ça laisse un peu, en même temps, pas planer le doute, mais bon, c'est pour que chacun puisse s'identifier. Voilà. Mais là, en effet, c'est effectivement, c'est les ruptures amoureuses avec tout ce que ça peut comporter des fois de terrible. Donc, on peut se retrouver effectivement dans ce texte.
Sacrifice, une maladie incurable. personne n'atteint le plus haut nuage. Dans un ultime signe d'adieu, juste avant le dernier voyage.
Tony Marlowe, alors tu évoquais tout à l'heure parmi tes premières influences à garçon comme Jimi Hendrix, et là dans ce disque Cryptogenèse, Tony, on retrouve Highway Child.
C'est une compo de Jimi Hendrix qui est sur la... C'était sorti à l'époque sur un 45 tours, c'était une face B de 45 tours, et je crois que le titre vedette était The Wind Cries Mary, de mémoire, et donc en fait, voilà, Highway Child n'est pas un des titres les plus connus de lui, d'ailleurs, à ma connaissance, je crois qu'il ne l'a jamais joué sur scène.
J'apprends toujours des choses en t'écoutant, Tony. C'est ça qui est incroyable.
Merci, merci. Et donc, justement, dans celui-là, comme dans beaucoup de... le concept de Marlowe Rider, c'est tout en restant fidèle dans les sons de guitare ou dans certains plans à l'original, de, en même temps, amener une touche personnelle, notamment par l'emploi de la contrebasse qui est donc jouée en slap, donc en fait rockabilly, on peut dire. Donc il reste quand même, dans Marlowe Rider, il y a toujours une sorte de rappel de ce que j'ai fait avant également. C'est un mélange un peu, j'essaye de trouver une sorte de compromis, de mélange entre mon passé rockabilly et puis mon désir de renouer... avec tout ce blues rock, Jimi Hendrix, les Cream, etc., que j'écoutais quand j'étais ado.
J'imagine les fans, les gens qui te connaissent depuis la première heure ou qui t'ont rejoint et qui ont découvert ta carrière précédente, ils doivent être à l'affût de ce genre de clin d'œil, non ?
Tout à fait, tout à fait. Mais comme je dis, ce n'est pas une rupture, c'est une continuité,
oui,
en fait.
Oui.
C'est un peu une sorte de façon de boucler la boucle, c'est-à-dire de faire, de mettre tout ce que j'ai aimé et joué et écouté dans ma vie, quoi. Donc voilà, et du coup, le rockabilly pur, on va dire, ne suffit suffisait plus pour moi à satisfaire ce besoin de un peu de création et de synthèse, quoi.
Il fallait aller au-delà, donc.
Voilà, voilà.
Yeah. His guitar sound across his back. His dusty boots is a skylight. Flaming hair just blowing in the wind. And silhouette so long is sad. He left home when he was 17. The rest of the world he wanted to see. Everybody knows the bust. Rolling Stone will get all the boys. But he probably showed him a trap. But it goes a little deeper than that. He's a highway child. Some people say he had a girl back home who messed around and did it pretty wrong. They tell me it kind of hurt him bad. I'll bet it felt pretty sad. I could say, oh, well, for his mind.
same old story. In love or war, you can lose in glory. But it probably a call him a tramp. But it goes a little deeper than that. He's a highway child.
Il y a un autre titre qui s'appelle Hard Driving Rock and Roll qui fait l'objet d'un clip qui ouvre d'ailleurs l'album Cryptogenèse. Est-ce que tu peux nous en parler en particulier de ce titre, Tony?
En fait, ce titre, c'est un peu quelque part l'histoire de ma vie, c'est-à-dire que le texte, voilà, c'est la vie de quelqu'un, d'un rocker qui a passé pratiquement toute sa vie sur la route et qui se ressource à chaque fois grâce au rock'n'roll. Quoi. C'est le rock'n'roll est son moteur de vie et lui permet de traverser les décennies en prêchant la bonne parole.
Et qui joue la nuit, qui dort le jour et qui est tout le temps sur la route, effectivement, tu l'as dit. Hard driving rock'n'roll. Hard, c'est dans quel sens? Hard, c'est dans le sens ça devient de plus en plus dur, ou c'est dans le sens c'est un petit peu âpre la vie de rock'n'roller?
On peut le prendre dans les deux sens, mais c'est aussi, il y a un petit côté quand même, c'est en même temps parce que ça muscle c'est un rock'n'roll plus musclé que celui, mettons, des pionniers, quoi, des années 50.
Oui.
C'est-à-dire, on retrouve en même temps un petit côté Led Zeppelin dedans, dans le jeu de batterie, dans la façon de faire, même la voix. Là, j'ai chanté dans une tessiture beaucoup plus en aigu à la Robert Plant, on va dire. Bon, donc ça durcit un peu la chose. Donc d'où le mot hard, en effet. Là.
Voilà, hard driving rock and roll.
Music is so loud.
Il y a un morceau dont on pourrait parler également, qui constitue une seconde reprise, un truc qu'on reconnaît immédiatement dès les trois premières notes, c'est Sunshine of Your Love. Donc là, derrière, on a Eric Clapton, enfin on a Cream, hein, le groupe Cream, l'éphémère Cream, qui s'était reformé il y a une quinzaine d'années, qui avait fait les gorgées chaudes du côté du Royal Albert Hall. Tiens, d'ailleurs, j'ai une question pour toi. Tu as vu Cream en concert, Tony?
Hélas, non. Mais non. Tu sais, ils sont, à l'époque, ils sont venus, je crois qu'une fois ou deux, ils sont venus très peu en France.
Ouais.
Et c'était en 67, je crois. Donc moi j'étais encore au lycée à Bastia, je dirais très jeune quoi, j'avais 13 ans, donc c'était impossible pour moi de voir Cream à l'époque. Après la reformation au Royal Albert Hall, je l'ai vu mais en DVD.
Oui c'est ça, c'était vers 2005, bon pas tout à fait le même esprit de l'époque, mais en tout cas le même répertoire effectivement.
Oui.
Et ce titre Sunshine of Your Love, je voulais savoir si tu t'étais plutôt inspiré de la version de Cream ou plutôt de celle de Jimi Hendrix.
Plutôt de celle de Cream quand même.
Ouais.
Et voilà, pour moi, je trouve qu'il y a un côté magique dans la version originale, déjà par le jeu de batterie de Ginger Baker qui joue en fait la chanson à l'envers, si on peut dire, c'est ce qui est surprenant et assez compliqué à faire finalement, parce que tout ce qu'il fait est joué de manière, il inverse les temps faibles, et donc c'est assez virtuose. Et puis je trouve le chant et la partie de basse de Jack Bruce sont super, et puis surtout je trouve que Eric Clapton joue merveilleusement bien. L'époque de Cream pour moi c'est l'apogée de Clapton, avec le John Mayall, le disque Blues Breaker, c'est fantastique, mais avec Cream je trouve que Clapton atteint des sommets, notamment dans ce titre, le solo de guitare là, pour le coup j'ai essayé de coller au plus près au solo de Clapton, parce que en une sorte d'hommage, parce qu'il révolutionne la façon de jouer de la guitare en fait.
Oui. So long to be where I'm going.
long. I've been waiting so long to be where I'm going, in the sunshine of you, in the sunshine of you, in the sunshine of you.
Crypto Jeunesse, comment est-ce qu'on pourrait prendre ce titre? Parce que moi, je vois dans la pochette Crypto Jeunesse avec deux dates un petit peu charnières, 1963-1980. On a tous plus ou moins des références de ces deux années-là particulièrement. Mais qu'est-ce que ça signifie pour toi, cette période? Est-ce que tu peux nous résumer ça, Tony, pour les gens qui n'ont pas encore acquis ton album?
Bien sûr. Alors, en fait, 1963, alors là, pour le coup, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus personnel.
Personnel, oui.
Voilà, parce que en fait, 1963, c'est l'année où mes parents ont décidé de s'installer encore.
Ouais.
Et donc, j'arrive en Corse en 1963 à l'âge de 8 ans. Donc, ça, c'est l'objet de la chanson Le Grand Voyage, justement, qui raconte ce voyage de la Belgique jusqu'à la Corse. Ça s'arrête après, donc au début des années 80, parce que après, c'est l'aventure Rockin' Rebels qui démarre vraiment. Et donc là, ça pourra peut-être faire l'objet d'un autre, mais c'est vraiment la genèse, c'est donc telle que définie dans la Bible, ce sont vraiment les débuts, c'est la formation. Donc, ce sont vraiment les années de formation. C'est pour ça que ça s'arrête début 80.
Et dans ce petit texte que tu signes à l'intérieur de la pochette, tu écris « Écroulé sur le sol, la remontée est douloureuse et la musique une bonne thérapie. De disques en concert, les années passent et heureusement, le temps efface les blessures. Même si à l'école de la vie, on ne finit jamais d'apprendre. Ceci n'est que le début, la jeunesse se termine, l'histoire continue. » Quelle a été ton initiation, en fait, Tony? Est-ce que tu as eu des mentors comme ça, mais pas seulement des gens que tu écoutais sur disque, je veux dire des artistes qui t'ont épaulé, qui physiquement étaient près de toi pour te dire tu pourrais faire ça, tu devrais faire comme si. Est-ce que tu t'es formé tout seul ou est-ce qu'il y avait des gens pour te conseiller de près, Tony, pendant cette période-là, 63-80?
Oui. La batterie, par exemple, je l'ai appris au départ qu'en autodidacte, hein, c'était vraiment, et puis après, c'est, je dirais, au lycée de Bastia, il y avait quand même deux, trois élèves qui jouaient de la batterie, qui étaient plus avancés que moi sur l'instrument, et qui donc m'ont montré donné des petits cours. Bon, je me suis perfectionné comme ça, petit à petit, au contact de musiciens plus avancés que moi sur l'instrument. Après, concernant la guitare, ça se passe quand j'arrive à Paris. Moi, il y a eu, une rencontre qui a été décisive dans ma vie de guitariste, c'est la rencontre de Mauro Siri.
Ah oui.
Mauro Siri, donc, qui était, en fait, on s'est rencontré par hasard, parce que quand j'habitais à Paris, à Porte Dorée, c'était mon voisin. Il habitait à deux rues de chez moi, donc on a sympathisé, et très vite, je me suis rendu compte que c'est lui, alors, connaissait sur le bout des doigts tout le jeu de Jimi Hendrix, Eric Clapton...
On va préciser, Tony, pour les gens qui ne savent pas tout, Mauro Siri, qui a été pendant, 40 ans, le guitariste de Bilderheim.
De Bilderheim, c'est
voilà,
ça.
Notamment.
Qui a joué aussi en début 80, il a joué avec Eddie Mitchell.
Ouais.
Il a fait, je crois, deux ou trois ans avec lui, dont une série de dates à l'Olympia.
Ouais.
Qui a aussi beaucoup joué après avec Jean-Jacques Milteau, avant de jouer, comme tu dis, pratiquement 40 ans avec Bilderheim. Donc c'est un très très grand guitariste de blues rock. Je trouve qu'il n'a jamais eu la reconnaissance qu'il méritait en France, d'ailleurs.
Mauro Siri qui vient de Sardaigne, lui, hein, si mes souvenirs sont exacts.
Les Sardes d'origine, en effet. D'ailleurs, on parlait beaucoup de ça, de la Corse, de la Sardaigne aussi.
Et, oui.
Et puis on ne parlait pas que de guitare. Mais donc voilà, et puis il m'a donné des cours quand je me suis mis fin 80, quand je me suis mis sérieusement à la guitare, il m'a vraiment. J'ai pris un an de cours avec lui où là, il m'a vraiment beaucoup, beaucoup appris de choses sur l'instrument. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui a eu une énorme influence sur moi.
Alors voilà, ces années d'initiation et puis le début du grand voyage. Et tu racontes là, dans ce titre précisément Le Grand Voyage. Voilà la mer qui scintille de mille feux, Méditerranée qui déroule ses flots bleus, puis la descente, le cœur qui bat plus vite, vers Calisté, l'avion se précipite, atterrissage comme dans un livre d'images, et les senteurs venant du maquis sauvage. Avant même la sortie de l'avion, tu avais déjà les senteurs dans le nez. Tu savais déjà que la Corse, tu allais en tomber amoureux. C'est ça, Tony?
Oui, c'est ça. En effet, ça a été un coup de foudre immédiat, on va dire. Et qui ne s'est plus démenti depuis.
Sur le tarmac, tôt la brume du matin, et dans mon sac, tous mes rêves de gamin. Aéroport de Bruxelles à 20h. Piste d'envol, au revoir plat pays blême. Dans un coucou de la Seconde Guerre mondiale, bagages en soute, décollage vertical. Du nord au sud, le grand voyage à 8000 pieds d'altitude. Les yeux collés au hublot du fuselage, écarquillés, la tête dans les nuages. Et regardez les voitures minuscules se déplacer comme des insectes ridicules. Nouvelle vie dans un nouveau pays, terre promise où il ne fait jamais gris. Du nord au sud, le grand voyage à 8000 pieds d'altitude.
Il y a des gens qui ont suivi ton exemple. Hein. Il y a beaucoup d'artistes qui habitent sur l'île bleue. On va parler de Jacques Dutronc, par exemple, que tu as peut-être rencontré, je ne sais pas.
Non, je n'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer. Mais en effet, il vit depuis très longtemps maintenant au-dessus de l'île Rousse. Là, oui.
Pour revenir sur l'album, on a parlé de la pochette. Est-ce que tu peux nous dire qui a présidé au design complet et puis au choix des photos et au dessin aussi? Vous êtes tous les trois, vous êtes magnifiques. Hein,
Écoute, merci. Mais déjà, ce qu'il faut dire, c'est que donc, l'album sort sur Bulit Records.
Oui.
Et donc Bulit, c'est le label de Seb Le Bison. Et donc Seb Le Bison, c'est lui qui a également enregistré, mixé et masterisé l'album.
Voilà.
Voilà, quelqu'un de grand talent. Et c'est également donc Seb qui connaît, je le connaissais aussi, mais lui le connaissait mieux que moi, donc un artiste montrelois qui s'appelle Tristan. C'est donc un dessinateur, peintre montrelois, et c'est lui qui a donc fait la pochette. Un peu, on voulait une sorte un peu de clin d'œil psychédélique qui pourrait évoquer éventuellement la pochette de Axis Boulder's Love, par exemple,
oui,
de Jim Hendrix. Donc voilà, c'est Tristan qui a fait la pochette. Magnifique dessin, en effet, on l'aime beaucoup.
Voilà, avec en fond de la vanille et du chocolat, et puis par-dessus, Marvel Rider en rouge, et vous trois en bleu, qui êtes vraiment magnifiques. Crypto-Genèse, si on devait résumer cet album, tu l'as dit, c'est l'histoire de ta vie, bien sûr, mais c'est également le fruit d'un travail avec tes deux comparses, donc Fred et Amine. Quel a été leur travail respectif dans la création de ce disque, Tony?
Écoute, en fait, c'est surtout au niveau des arrangements qu'ils ont eu beaucoup d'importance. Donc Amine Leroy est un très bon contrebassiste qui vient du psychobilly, donc il a joué notamment avec Banane Métallique et plus récemment avec Johnny Montreuil. Mais donc c'est quelqu'un qui slappe très bien, qui a une grande maîtrise de l'instrument et donc qui apporte beaucoup, parce que c'était pas évident de jouer du Cream ou du Jimi Hendrix avec une contrebasse rockabilly. Donc lui était un des rares que je connais en France aptes à faire un peu ce genre de démarche, quoi, pour avoir aussi envie de le faire, parce que beaucoup restent un peu coincés dans leur, on va dire, dans leur domaine et veulent pas trop prendre de risques. Là, il y a quand même une prise de risque qu'il a fait avec plaisir et qui est une réussite. Et puis donc, Fred Kolinsky, lui, est un très bon rythmicien, et notamment, il y a un titre qui s'appelle Libertad, qui peut évoquer un peu Santana, où là, il a fait des parties de percussion heureux. Très latino, il maîtrise très bien tout ça. Donc, en fait, voilà, il y a une sorte de fusion d'alchimie qui s'est faite entre nous trois sur les arrangements de cet album. Et donc, après, Seb Le Bison a su capter tout ça comme il fallait au niveau du son, quoi.
Ouais. Qui est maintenant le batteur de Barlow Rider? J'imagine que vous poursuivez la scène, évidemment, et que cet album, vous le défendez en concert très régulièrement. Est-ce que un autre batteur a réussi à trouver le chemin du groove de Fred Kolinsky?
Ben, écoute, oui, tout à fait. On a donc essayé plusieurs batteurs, et puis donc là, notre nouveau batteur s'appelle Jacques Charret. Je l'ai connu parce qu'il joue également dans un groupe qui s'appelle les Buddy Doctors, qui font des reprises de Dr. Feelgood. Mais lui, il joue aussi dans un big band de jazz, donc il a à la fois le côté binaire et le côté ternaire, on va dire. Il arrive un petit peu à mélanger tout ça, et la musique qu'on fait, qui est dans Hendrix, tout ça, c'est un mélange binaire ternaire, ça part dans beaucoup de directions, donc il fallait un batteur assez ouvert musicalement. On a trouvé un batteur qui nous convient. On a fait d'ailleurs un beau concert avec lui à Montreuil, dans un festival au mois de juillet là. Donc c'est avec lui qu'on va redémarrer à la rentrée.
Très bien. Et juste deux petites questions avant de conclure, Tony. Tu évoquais tout à l'heure le groupe Banane Métallique. Moi, ça m'a immédiatement fait penser à l'album de bande dessinée de Franck Margerin. Est-ce que le prochain album, c'est juste une suggestion comme ça, est-ce que ça te plairait si le dessinateur de la prochaine pochette d'album de Marlow Rider, c'était Franck Margerin?
Bah écoute, pourquoi pas. Rien n'est exclu, en effet. C'est quand même l'influence majeure, c'est d'ailleurs peut-être aussi un peu pour ça que je suis invité dans ton émission, c'est qu'il y a quand même une très forte influence blues dans tout ça. Ouais. C'est-à-dire que comme disait, je suis un peu, Scotty Moore disait, s'il n'y a pas un peu de blues dans un solo de guitare que j'écoute, pour moi il manque quelque chose.
Effectivement.
Et il disait ça, et donc c'est un peu mon cas aussi, c'est-à-dire que je suis quand même très influencé par le blues dans tout ce concept, quoi, tu vois. Aussi bien du blues très roots comme Le Grand Voyage, que après des titres plus psychédéliques, blues psyché comme Sunshine of Your Love.
Tout à fait.
Le blues est quand même là, sous-jacent ou évident un peu tout le long de l'album.
Voilà, un album qui s'appelle Cryptogenèse, signé Tony Marlow, et puis qui balaye comme ça plusieurs décennies d'influence musicale et qui marie tout cela à merveille. Est-ce qu'il y aura possibilité dans le prochain album, puisqu'on en arrive maintenant au projet, d'aller au-delà, c'est-à-dire peut-être d'imaginer le prochain son, les prochains sons, en s'inspirant de ce qui existe de façon contemporaine? Dans quel sens est-ce que tu comptes travailler dans le futur, Tony? Continuer à faire perdurer tout ça, ou encore façonner des choses de manière à inventer quelque chose de carrément nouveau?
Carrément nouveau, ça, pourquoi pas, mais enfin, c'est la tâche est difficile, mais en tous les cas, déjà, essayer de développer un peu ce côté fusionnel, on va dire, de cette démarche, quoi, c'est-à-dire mélanger le blues, le rock, un peu de latino, un peu de jazz, parce qu'il y a aussi des petits passages jazz, il y a des petits passages funk, et d'arriver un peu à une sorte comme ça de perfectionner encore toutes les musiques que j'ai eu l'occasion de jouer en 40 ans. Quoi.
Très bien. Tony, ce sera le mot de la fin. Juste une toute petite chose pratique. Comment se procurer l'album? Je me mets toujours à la place des auditeurs. Est-ce que en dehors des concerts que tu donnes, il y a moyen, par correspondance ou par distribution, de se procurer l'album Cryptogenèse de Marlow Rider?
Alors, le Bullet Records pour cet album est distribué par Inouï. Donc, ça s'appelle Inouï Distribution.
Voilà.
Donc, ils l'ont mis dans les FNAC, notamment.
Très bien.
On peut le trouver dans les FNAC. On peut le trouver sur les sites, sur différents sites, je crois Amazon également. Donc, alors, on peut aussi le commander directement chez Bully, donc, ou me le commander directement. Il y a un site Big Cartel, marlowrider.bigcartel.com.
marlowrider.bigcartel.com, voilà comment se procurer l'album. Sinon, c'est par les circuits de distribution traditionnels pour se procurer de la bonne musique. Merci pour tout ça, Tony. Et puis, on se quitte avec un dernier extrait de l'album Cryptogenèse, Marlow Rider. Je te souhaite bon vent ainsi qu'au trio. Et puis, à très bientôt sur la route du blues et du rock'n'roll, Tony.
Merci pour tout. Merci à toi, Marc. Et puis, à très bientôt, j'espère.
À bientôt, merci.
Au revoir.
Au revoir.
weeks and weeks of such obscurity. It seems to be fidelity. Blood and tears are our best friends, but I no fear, I join your hands. Together we're going stronger and stronger. You people take the power. So much part. Break your chains and free your mind. Only both is hard to find. You have to fight against the laws. The parachute is on the go.
Leave.
Merci à Tony Marlow pour cette deuxième heure du 1202e Sweet Home Chicago avec quelques illustrations musicales, bien sûr. Branche le poste par The Rocking Rebels. That's Alright Mama, vous avez reconnu Elvis Presley et Scotty Moore à la guitare. Daniela avec les chaussettes noires. Et puis les 6 extraits de Crypto Jeunesse de Marlow Rider, comme un cran d'arrêt, Highway Child, Hard Driving Rock and Roll, Sunshine of Your Love, Le Grand Voyage et Liberdal. On se retrouve la semaine prochaine. Salut, bye bye.
Back to that same old place, sweet home, Chicago. Come on.